Le point à nouveau sur la situation à Bukavu, la capitale du Sud Kivu dans l'est de la RDC, où le groupe M23, soutenu par le Rwanda, a fait son apparition hier soir. On appelle de nouveau Paulina Zidi à 6h, temps universel. L'actualité, c'est aussi ce convoi de la FINUL, la force de l'ONU au Liban, attaqué et incendié hier par des soutiens du Hezbollah sur la route de l'aéroport de Beyrouth. On retrouve tout à l'heure Paul Khalife en direct de la capitale libanaise. À suivre d'ici là, notamment la revue de presse internationale avec Catherine Pot. Le regard de Jean-Baptiste Placard, et on parle cette semaine des menaces de Donald Trump contre l'Afrique du Sud en réaction à une loi sur l'expropriation de certains propriétaires blancs. Mais tout de suite, c'est le journal des sports. Bonjour Victor Messistrano.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
Et d'abord le basket aux États-Unis, un week-end de gala s'est ouvert à San Francisco, le All-Star Game de la NBA.
Avec en point d'orgue dimanche le match des étoiles qui opposera les meilleurs joueurs de la Ligue nord-américaine. Le Camerounais des Indiana Pacers, Pascal Siakam, sera de la partie pour la troisième fois de sa carrière. Son compatriote des New Orleans Pelicans, Yves Missy, espère pouvoir un jour limiter. En attendant, il devait prendre part cette nuit au Rising Star Challenge où s'affrontent les meilleurs joueurs de première et deuxième année de NBA, mais le pivot de 20 ans a finalement déclaré forfait en raison d'une blessure de dernière minute au genou. Il a tout de même profité de l'événement, on l'écoute.
C'est toujours frustrant de pouvoir jouer ce genre de match, un événement comme le All-Star Game, c'est un grand événement pour le basketball en NBA, surtout dans le monde entier. Du coup, c'est pas facile, mais bon, c'est ça fait quand même plaisir d'être là et de pouvoir toujours sentir l'environnement. Il y a aussi Siakam qui l'a joué. Et il joue encore cette année, du coup c'est incroyable pour lui aussi. J'espère que je pourrai le voir aussi et lui dire salut et tout. Ah, beaucoup plus de joueurs africains, de joueurs asiatiques, ça fait plaisir.
Le basketteur camerounais Yves Missy au micro de Théo Quintard.
Football est d'abord en France, suite de la 22e journée de Ligue 1 ce samedi.
Avec au programme pour commencer un match entre deux clubs historiques du championnat, Marseille reçoit Saint-Etienne au stade Vélodrome. L'OM pourrait aligner ses recrues algériennes. Amine Gouiri, venu de Rennes, est déjà décisif avec trois passes décisives en deux matchs, ainsi qu'Ismaël Benacer, très en vue à Angers le week-end dernier pour sa toute première apparition. Ses transferts ont été bien accueillis par les supporters olympiens. Depuis Fouad Kadir, il y a 10 ans, ils n'avaient plus vu un seul joueur des Fennecs avec le maillot de leur club. Reportage à Marseille, Siam Spencer.
Au local des South Winners, club de supporters de l'OM, on charge les tifos pour le match dans un grand camion. Bonne humeur au rendez-vous après un mercato d'hiver réussi pour Amine.
Non, très content. Ils vont relever l'OM parce que là, il nous manquait un bon milieu technique. Benacer vient d'arriver. Gouiri, il est venu, ça fait un bon duo avec Benacer. On a un bon neuf. En 3 matchs, il a déjà 2 passes décisives.
Même son de cloche pour Roger, pour qui les deux Algériens collent bien à la ville de Marseille.
C'est cosmopolite, ça revient une grosse communauté aussi algérienne, et tant mieux. C'est vraiment l'équipe qu'il nous fallait, c'est les joueurs qu'il nous fallait. J'espère qu'on atteindra les sommets.
Avec une mention spéciale pour Amine Gouiri, décisif sur le dernier match de l'OM contre Angers.
Par sa lecture du jeu, sa vitesse, sa finesse technique aussi, c'est grâce à des garçons comme ça qu'on va grandir aussi.
À la commanderie, on se félicite aussi des recrues et de leur intégration à l'effectif. Pierre-Émile Heubière est revenu en conférence de presse sur le dernier arrivé, Ismaël Benacer.
Ismaël, c'est un joueur très doué, c'est un joueur de très haute qualité. Tu sens aussi qu'il est ici pas très longtemps, mais tu sens sa dédication, sa envie de très vite s'intégrer au groupe.
Le duo algérien Gouiri Benacer qui foulera peut-être la pelouse du Vélodrome ce soir dans un stade plein à craquer.
OM Saint-Etienne, coup d'envoi 16h, temps universel. Aujourd'hui aussi marque la reprise du championnat en République démocratique du Congo. La phase retour de la première division débute dans un contexte d'incertitude liée à la guerre dans l'est du pays. Parmi les affiches du jour, un derby entre Lubumbashi Sport et le TP Mazembe. Enfin Julien, toujours en football, il a guidé le Nigeria vers la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. José Peseiro retrouve un club en Égypte. L'entraîneur portugais s'est engagé avec le Zamalek.
Merci Victor Messistrano, à tout à l'heure. Et bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale et à la une, la presse européenne vent debout contre le vice-président américain J.D. Vance.
À Munich, la démocratie, selon J.D. Vance, sidère les Européens, titre Le Monde. À la conférence de Munich sur la sécurité, poursuit le quotidien français, le vice-président américain a tenu un discours à charge contre ses alliés historiques à propos du droit de vote et de la liberté d'expression. Il était attendu sur l'Ukraine, il a préféré donner aux Européens une leçon sur la démocratie. À Londres, le Guardian parle d'un sermon sur ce que le vice-président américain considère comme l'incapacité du continent à écouter les préoccupations populistes des électeurs. J.D. Vance a ainsi déclaré « La démocratie ne survivra pas si les préoccupations de son peuple sont jugées non valables ou pire encore ne méritant pas d'être prises en compte ». À Bruxelles, le soir cite le député ukrainien Oleksiy Goncharenko, selon lequel ce discours prononcé devant le Gotha mondial de la diplomatie et de la défense a laissé les dirigeants européens choqués par cette humiliation totale. Enfin, à Madrid, El País parle d'une attaque idéologique virulente contre les pays européens qui montre une fracture vertigineuse entre les deux rives de l'Atlantique Nord, alors que le monde plonge dans une spirale dangereuse de confrontation entre puissances.
Ces déclarations de J.D. Vance à la conférence de Munich passaient quasiment sous silence par la presse américaine.
Il faut dire que de son côté, elle a fort à faire pour préserver sa capacité de travailler librement. Ainsi, le Washington Post nous apprend que pour le quatrième jour consécutif, la Maison-Blanche a interdit à un journaliste de l'Associated Press l'accès à des événements officiels parce que l'agence n'utilise pas l'appellation « Golfe d'Amérique » au lieu de « Golfe du Mexique » comme l'exige Donald Trump. L'Associated Press ne peut donc assister à des événements dans le bureau ovale ou voler avec le président à bord d'Air Force One. Ce qui, remarque le Washington Post, pourrait limiter considérablement la capacité de l'agence de presse à couvrir l'administration américaine. De son côté, le New York Times préfère ironiser. Le président Trump s'est employé à bouleverser le gouvernement fédéral, à réorienter la politique étrangère américaine, à menacer des pays de guerre commerciale, mais il a réussi à trouver du temps pour un projet plus proche de chez lui. Il a déclaré à ses collaborateurs qu'il voulait arracher l'herbe du Jardin des Roses, l'un des endroits les plus emblématiques de la Maison-Blanche, et de le remplacer par une surface dure qui ressemblerait à un patio comme celui qu'il a chez lui à Mar-a-Lago.
Tout autre chose enfin, Catherine, avec cet article paru dans Haaretz.
Le quotidien israélien d'opposition a rencontré Bazel Adra, co-réalisateur palestinien du film No Other Land, en lice aux Oscars. Un documentaire qui, espère-t-il, sensibilisera en Israël et à l'étranger sur la situation difficile de sa communauté assiégée en Cisjordanie. Il reconnaît toutefois, c'est la pire période que nous ayons jamais vécue. C'est difficile de dire quelque chose d'encourageant. Je vois que Trump a annulé les sanctions qui avaient été imposées à certains colons. Il est clair qu'il n'a aucun scrupule à céder officiellement la Cisjordanie à Israël. Ni le droit international, ni la morale n'empêcheront Israël et les États-Unis de nous expulser. Bazel Adra qui raconte le quotidien en Cisjordanie. Il y a beaucoup d'endroits, explique-t-il, auxquels les Palestiniens n'ont pas accès. Les gens ne peuvent pas travailler leurs terres. C'est le milieu de l'hiver, mais beaucoup n'ont pas encore labouré leurs champs. Il cite aussi le cas d'un vieil homme frappé à la tête à coups de matraque, transporté d'urgence à l'hôpital. Et la première chose à laquelle il pense, c'est à rentrer chez lui, être à la maison, voir ses petits-enfants. Ça me donne, explique Bazel Adra, l'envie de continuer à lutter, à raconter ces histoires.
Catherine Potet pour la revue de presse, merci beaucoup.
RFI Matin.
Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Pour sanctionner une loi sur l'expropriation de certains propriétaires afrikaners, Donald Trump suspend l'aide des États-Unis à l'Afrique du Sud et à la surprise générale, toute la classe politique du pays, y compris l'Alliance démocratique opposée à la dite loi, se mobilise derrière Cyril Ramaphosa en dénonçant une désinformation propre à entacher l'image de leur pays. Comment expliquer le contraste avec la RDC où les principales formations de l'opposition accablaient cette semaine Félix Tshisekedi pour sa gestion de la guerre dans l'est du pays.
La conscience qu'ils ont de leurs responsabilités vis-à-vis de la nation est peut-être ce qui distingue la classe politique d'Afrique du Sud des politiciens de nombreux pays où beaucoup ramènent tout à leur rancœur personnelle, à leurs intérêts immédiats. En RDC, certains ne conçoivent l'opposition entre adversaires politiques qu'en animosité incurable. En Afrique du Sud, pour préserver l'essentiel, ils savent taire à l'occasion leurs dissensions. Même du temps de l'apartheid, tous les Blancs n'étaient pas des partisans bornés du racisme d'État. D'ailleurs, les extrémistes africanaires ont décliné l'offre d'asile de l'Américain, un président rétif aux étrangers qui envahissent son pays, et d'une si soudaine hospitalité. Sa logique est indéchiffrable ou trop explicite.
Qu'y a-t-il de trop explicite, comme vous dites, dans cette offre ?
À quoi ? À qui la fait-il ? À leur condition de persécuter ou à leur couleur de peau ? En Afrique du Sud, la dimension raciale de la question de la terre est telle que l'on a dû constitutionnaliser la nécessité d'un rééquilibrage décent. 72% des terres agricoles appartiennent à 8% de Sud-Africains blancs. Certains en possèdent tellement qu'ils en laissent en jachère ou en garantie bancaire. 30 ans après la fin de l'apartheid, le statu quo était intenable. Les expropriations qui transforment Donald Trump en défenseur des droits de l'homme ne visaient qu'à leur reprendre les terres non exploitées. Sauf que le président des États-Unis, tel le promoteur immobilier qui ne peut s'empêcher d'être, salive devant chaque hectare, alors que l'on attend du leader du monde libre d'oublier celui où prévalaient les méthodes d'antan des milieux d'affaires new-yorkais avec les Bernard Madoff et autres personnages convaincus que l'essentiel est de prospérer à la manière d'un Charles Ponzi escroquant de nouveaux clients pour rémunérer les précédents. La question de la terre en Afrique du Sud est bien trop sensible pour accepter que Donald Trump s'en mêle.
Pourquoi donc est-elle si sensible, si délicate, cette question ?
Sans doute parce qu'elle renvoie sans cesse au piège infernal de la responsabilité initiale. Qui donc le premier a exproprié qui ? Nelson Mandela, magnifié notamment en Occident pour son leadership tolérant, a laissé beaucoup d'amertume chez les siens pour n'avoir pas osé restituer leurs terres aux communautés noires à la fin de l'apartheid. Même Robert Mugabe a dû s'y prendre par étapes avant de confisquer leurs terres aux Blancs du Zimbabwe au début des années 2000. Durant les 14 semaines passées en 1979 à négocier l'indépendance du Zimbabwe à Lancaster House, la délégation du Front patriotique qu'il conduisait avec Joshua Nkomo a maintes fois menacé de se retirer si elle ne pouvait, en même temps que l'indépendance, restituer au peuple les terres accaparées au temps colonial. Le gouvernement Thatcher au Royaume-Uni et l'administration Carter aux États-Unis leur proposèrent alors d'accepter l'indépendance avec la promesse de leur octroyer dans 5 ans les fonds pour acheter leurs terres aux propriétaires blancs. À l'échéance, Ronald Reagan prétextera de l'orientation marxiste du régime zimbabwéen pour refuser d'honorer la promesse. Mugabe revient régulièrement à la charge, en vain. Aussi choisit-il, 20 ans après l'indépendance, de recourir aux grands moyens avec quelques maladresses. Des manifestants expulsent les Blancs et occupent les propriétés. C'est alors que, pointant du doigt Mugabe, Tony Blair invitera le monde à contempler ce qu'est un dictateur sans pitié. Sans doute Mugabe l'était-il, mais était-ce vraiment là la question ? Une belle diversion en tout cas.
Merci Jean-Baptiste Placard. Et sur la radio du monde, bientôt 6h, en temps universel, avant le journal, un peu de musique et le très célèbre Orchestra Baobab, formé dans les années 70 à Dakar au Sénégal. Avec Idrissa Diop, le titre Boulendem dans la sélection du mois d'RFI.
Bëgg jël garçon bu geej gi bu ñëppate me ko fi dess ñun suñu réew mi ñoko moom ñu rafetal utin bi toog fi tekki fi mëna nekk te nag ñu bàyyi xel suñu boloo bëri doole ñu bëggante suñu bi roy comme you comme ak ni dan defé ñu xol ci lu ñu am nit ku ne amna lu ko yalla may nañu tok suñu rew tok fi tek fi mëna
nek.
Idrissa Diop et l'orchestra Baobab sur RFI dans notre sélection du mois que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Et le journal dans une minute. A tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le bitcoin autour de 100 000 dollars. Les cours des crypto-monnaies battent des records. Un phénomène économique et politique qui, malgré les risques liés à leur volatilité, attire les investisseurs du monde entier. Les cryptos sont-elles l'avenir de la finance? On en parle avec leurs supporters et des spécialistes.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Connaissez-vous le maloyen, expression musicale, poétique et politique, née à La Réunion? Mais que racontent ces femmes et ces hommes qui l'ont chanté sur un sol où ils ont été esclavisés puis colonisés? Réponse dans notre nouveau documentaire Le Maloya, l'esprit créole de La Réunion à travers ses chants, sa langue et sa musique.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.